Je suis venu dans le plus simple appareil.
Dans mon potager, dans le plus simple appareil.
J'adore manger dans mon plus simple appareil.
Aimer mon plus simple appareil.
Je suis venu dans le plus simple appareil.
Et moi, la tomate dans le plus simple appareil.
Merci de nous retrouver pour la deuxième partie de notre hors-série consacrée au quartier nord de Bruxelles-Ville. Non loin de la gare du Nord, autour du canal, de Isère. Vous voyez Bruxelles-les-Bains, le Knot, le Mazout de la Havane du Nord ? Eh bien, c'est pas loin. Si dans une première partie, nous avions tenté de mettre l'accent sur l'aspect écologique du parc maximilien, nous tâcherons à présent d'y voir plus clair en matière économique, en nous promenant, toujours dans le plus simple appareil, jusqu'à Vergotte. Vous ne le savez peut-être pas, vous qui nous écoutez par delà les murs de la ville, mais en plein cœur de cette magnifique capitale européenne, subsiste une zone urbaine socialement et économiquement extrêmement fragilisée. Un chiffre qui parle, plus de 40% des jeunes de moins de 30 ans sont au chômage. Autant le dire tout de suite, par bien des points, on est très loin des standards des autres capitales de l'Union. Avec la densification de ce quartier, il est clair que beaucoup de choses doivent être entreprises en amont pour accompagner le développement économique et commercial de cette zone qui, rappelons-le, est historiquement un bastion d'emploi avec la présence du canal et de la Seine. Mais ça, c'était autant au Bruxelles rêvé, c'était autant du cinéma muet. Alors, quelle approche territoriale des problèmes socio-économiques existe-t-il ? C'est la question que nous allons aborder avec nos invités, Lise Naclet, conseillère sur les questions d'urbanisme au BECI, Chambre de commerce et Union des entreprises de Bruxelles, ainsi que...
Centre de connaissances, donc elle est au centre de connaissances du BCI.
Elle a complété son CV
Voilà.
Ok. Ainsi que Roland Dudal, fondateur et partenaire de Architecture Workroom Bruxelles, AWB, do and think tank européen pour l'innovation dans le domaine de l'architecture, dit développement urbain et territorial. Les gars, il y a du taf.
Bah, merci Anthony. Donc, nous sommes toujours dans le plus simple appareil, toujours avec un public qui est prêt à participer. C'est très important. Vous pouvez participer à l'émission quand vous le souhaitez, c'est très important. Et on va parler pour l'heure qui s'ouvre des questions, disons, économiques, socio-économiques du quartier, le futur de ce quartier qui, comme l'a dit Anthony, est un quartier fortement fragilisé économiquement. Et alors peut-être pour entrer en matière, je me tourne vers Lise Naclet, qui est donc conseillère au centre de connaissances, mais aussi qui collabore à la communauté portuaire, pour nous faire une approche un peu historique de cette zone qui a été autant du cinéma muet dynamique. Quelle était la situation avant? Quel est l'existant aujourd'hui? Et à partir de là, quels seront les développements possibles dans le futur? Bonjour Lise,
bonjour.
Ça va?
Ça va très bien, ravie d'être avec vous. Mais pour vous faire le petit historique de la zone, je ne vais peut-être pas remonter trop loin, mais il faut savoir que cette partie du canal ici qu'on appelle le canal de Willebroek, donc il y a la partie du canal de Willebroek qui va jusqu'à Sainte-Olette, et puis la partie qui va vers le canal de Charleroi, qui est la partie qui s'est développée lorsque les bassins du centre-ville, donc du côté de Sainte-Catherine, sont devenus trop étroits et que les besoins ont augmenté en termes notamment de charbonnage, avec l'apparition de l'industrie, qui était très présente à Bruxelles et en particulier dans la vallée de la Seine, on décide la construction justement de ce canal. Donc, un canal qui, de fait, a une vocation économique, purement économique. L'infrastructure qu'on connaît, le bassin Béco, le bassin Vergotte, doivent leur raison d'être à ses besoins en termes économiques. La présence de tours et taxis du port de Bruxelles qui s'installent justement au 19e siècle, voilà, on sont les témoins encore visible maintenant, même si on a tendance à un peu voir les activités économiques disparaître au profit d'autres fonctions.
Alors, ça, c'est déjà un constat que tu peux faire à l'heure actuelle. Ça disparaît au profit d'autres fonctions, donc la fonction logement, par exemple.
Disons que c'était plus visible avant. Il y a eu une période un peu compliquée, la désindustrialisation, voilà, a eu quand même un impact assez négatif. On peut reparler de cet aspect purement industriel qui est celui qui est vraiment aux abords du canal, où certaines entreprises ont subsisté, où d'autres se sont installées et sont venues remplir des interstices. On peut aussi parler de la partie qui est un peu plus éloignée, celle du quartier nord, qui est aussi une zone d'activité économique, plus dans un volet évidemment tertiaire. Et justement toutes les zones un peu interstitielles qui entre ces endroits-là, qui ont un peu été en flottement pendant longtemps.
Un flottement pour le port.
Parfois ça flotte, heureux. Parfois ça coule. Hein, ouais. C'est un quartier on peut pas vraiment parler d'un quartier, mais c'est une zone qui est assez compliquée parce qu'elle est complexe, parce que c'est toutes des structures bien spécifiques. Le quartier nord, qui ne fait pas partie ici du plan d'aménagement directeur, mais qui est à côté de la zone, a évidemment un impact. Ça a été un quartier qui a été, sa construction a été traumatisante, et on a encore une Bruxelles traumatisée aujourd'hui de ces travaux, des expropriations, des friches urbaines qui ont subsisté pendant plusieurs dizaines d'années à la suite de ce projet, qui n'a pas vu sa réalisation d'ailleurs jusqu'où il était prévu, qui a créé une zone un peu triste.
Historiquement, donc, tu dis qu'il y a eu un recul de l'activité économique du port, c'est aussi qu'il y a eu une transformation de l'économie. Est-ce que c'est forcément quelque chose de triste qu'on peut regretter, ou est-ce que c'est le fruit d'une évolution économique je dirais tout à fait compréhensible et à la limite souhaitable.
C'est le fruit d'une évolution qui est beaucoup plus large que le contexte purement bruxellois, la désindustrialisation, etc. Mais le contexte bruxellois n'a pas forcément participé non plus au fait d'aider ces quartiers à rebondir correctement, parce qu'on a pendant longtemps, et de mon point de vue, et encore parfois maintenant, un peu méprisé justement ces activités.
Ces activités, c'est quel type d'activité en fait, exactement?
C'est beaucoup d'activités, c'est vrai. Pour être un peu concrète, j'ai fait une petite observation juste avant de venir, en partant des données de la Banque Carrefour des entreprises, donc qui sont les données de toutes les entreprises. Je fais une petite sélection géographique pour voir à quel type d'activité on avait affaire dans ces quartiers-ci. On a énormément, donc l'activité qui est le plus représentée, c'est du commerce de gros et de détail. Donc ça, c'est le premier constat, c'est plus de 300 entreprises, 350 dans ces eaux-là, voilà, qui sont commerce de gros et de détail, qui se caractérisent par un petit nombre d'emplois. Elles sont beaucoup, mais avec pour la plupart moins de 10 personnes qui travaillent. Et puis, à l'autre extrémité, des quelques activités qui sont celles plutôt administratives.
Okay. Quel type de flux, juste pour se représenter, c'est quoi? C'est du sable? C'est
Le commerce de gros et détail, non. C'est plus, on a par exemple des fournisseurs en tout ce qui est boissons. Il y a de l'oreca, voilà, c'est beaucoup d'oreca. À côté de ça, il y a toutes les activités de restauration. Il y a ces activités administratives, comme je disais, qui sont assez fort implanté ici dans cette zone-ci, donc en dehors du quartier nord. Hein, vraiment, il y a le centre ne fût-ce que des pompiers qui emploie beaucoup de gens. Et puis, on a une autre activité qui est plus visible et aussi bien représentée, qui est les activités de construction, qui sont celles qu'on trouve le long du canal. Quand je dis le long du canal, c'est vraiment sur ses berges, parce qu'elles utilisent la voie d'eau.
Le béton, le sable et compagnie quand on est sur une berge.
Tout à fait. Le béton, on le transporte par camion avec des grosses toupies qui embêtent tout le monde parce que ça fait des gros embouteillages. Mais le sable, effectivement, le gravier, on le transporte par voie d'eau sur des berges. C'est ça qui est un peu étrange dans ce quartier, c'est qu'on a des activités extrêmement diversifiées avec beaucoup d'entreprises avec peu de travailleurs chacune, d'autres qui sont des très grosses entreprises, mais il n'y en a qu'une ou deux. Je ne vais pas citer de noms, c'est vrai que c'est plus facile parfois pour exemplifier de citer des noms d'entreprises, mais il suffit de vous balader.
C'est des grosses activités professionnelles qui n'ont pas de rapport direct en fait, avec les habitants du quartier. C'est des services pour professionnels.
Oui et non, parce que ça emploie des gens du quartier. Justement, la plupart du temps, quand vous avez des petites entreprises avec moins de 10 travailleurs, c'est souvent des emplois plutôt locaux. Quand vous avez effectivement des plus grandes entreprises avec plus de 500 ou 1000 travailleurs, ce sont des emplois moins locaux. Ici, une grosse partie du des activités économiques sont celles qui sont des entreprises de moins de 10 à 20 personnes.
Donc
a priori, plutôt de l'emploi local. Après, évidemment, protection des données oblige, on n'a pas, leurs adresses pour aller leur demander, mais il y a quand même une grosse partie de ce quartier qui fonctionne probablement avec des gens qui habitent le quartier. Juste pour terminer là-dessus, un petit élément intéressant, justement, quand on regarde un peu les statistiques, hein, c'est peu rébarbatif, mais c'est parfois assez éclairant, et ce qui est éclairant, c'est aussi l'absence de données. Et en fait, une grosse partie des entreprises qu'on repère dans ce quartier-ci, on a très peu de données, justement, sur leur nombre de travailleurs, sur le turnover de leurs travailleurs, etc.
Mais du fait de quoi ? Quelle est la raison pour laquelle on...
Parce que, justement, ce sont des plus petites structures qui fonctionnent peut-être beaucoup avec une économie un peu plus informelle, qui sont, du coup, moins... Enfin, qui renseignent moins d'informations.
Noir, c'est noir.
Et, oui, mais voilà, c'est intéressant, mais du coup, c'est dur d'objectiver ces aspects-là. Mais ça, c'est tout pour la partie un peu invisible. Après, il y a toute cette partie visible, qui est celle qu'on voit le long du canal, que tout le monde peut observer quand on se balade le long de l'allée verte, qui ne sont pas forcément des activités qui sont très pourvoyeuses d'emploi, mais qui pour autant ont une importance fondamentale pour la ville et pour son métabolisme, terme qu'on employait dans le débat précédent.
On va arrêter maintenant avec les éléments de langage. On a gardé tout ça dans le premier.
C'est compliqué. C'est important. Et, enfin, voilà, c'est déjà une prise de position, mais a priori, il faut les garder. Je pourrais vous expliquer en long, en large pourquoi. Mais,
Alors, je me tourne vers Roland Dudal. Toi, en tant qu'architecte et collaborateur, un think tank. Alors, j'aime bien, c'est un do and think tank. Donc, j'aime personnellement beaucoup l'approche. Vous faites aussi un diagnostic un peu de ce quartier, vous avez travaillé un peu, et quels sont les grands axes que vous voyez?
Ouais, en effet, on a été impliqué, aussi un tout petit peu initiateur de plusieurs débats plus généraux sur la ville européenne, avec Bruxelles en tant que ville exemplaire, capitale de l'Europe, dans le cadre du débat sur la ville productive. Et en effet, notre constat, c'était surtout que si on regarde toutes les villes qu'on aime bien visiter, tous les quartiers innovants dans les villes européennes, c'est très souvent des quartiers qui étaient avant des anciens quartiers industriels, qui sont transformés en quartiers résidentiels, avec des bureaux, avec de la récréation, avec la consommation, des cafés, hein, des baristas, tout ça. Par exemple, Hamburg, Hafen City, ou Île de Nantes, ou n'importe quelle destination touristique qu'on aime bien. Ici à Bruxelles, la zone qui souffre peut-être un tout petit peu de cette... dominance de développement vers une ville de consommation au lieu d'une ville de production, c'est en effet la zone du canal. Parce que c'était, comme c'est dit, la zone anciennement industrielle. Et pour beaucoup de raisons, les industries sont poussées dehors, petit à petit, parce qu'il n'y avait pas assez de place, parce qu'ils étaient polluantes, parce que la production a été déplacé vers des pays au salaire beaucoup moins qu'ici. Et toutes ces tendances ont laissé des friches. Et maintenant, la pression démographique et le développement urbain dominant maintenant sont en fonction du marché des logements, parce qu'il nous en faut. Ça, en combinaison avec le fait que tout le monde pense, ou la notion d'une bonne ville, ce qu'il faut avoir dans la ville, c'est très orienté au résidentiel, avec des parcs pour se promener, avec des shopping.
La moralité, pour qu'une ville décolle, il faut des riches, quoi. Hein, c'est un peu la base.
Peut-être, oui.
Quand on cite Londres, Paris, compagnie, il y a des riches dans le centre-ville qui ont réhabilité ces quartiers. Ça a beaucoup joué.
Dans les cas où, en effet, la définition de ville sort, en effet, où elle est liée au développement des promoteurs privés. Oui, oui. Il suit la marché, alors c'est pour ceux qui peuvent l'acheter. Mais aussi, je pense, dans d'autres quartiers, moins riches, si tu demandes ce que les gens veulent,
ouais, ils veulent des parcs, ils veulent
de bien-être, voilà. Par contre, pour revenir sur mon point, ça veut dire que, en effet, beaucoup d'activités productives sont poussées hors ville. Ici, dans les quartiers, quartier nord, dans le périmètre du PAT, je pense qu'il y a quelque chose qui est essentiel de mentionner, c'est que pour la ville productive, si on pense qu'il faut quand même aussi pouvoir travailler dans les villes, et pas seulement dans les bureaux, pas seulement dans le tertiaire, il faut avoir des lieux de réparation, des lieux de stockage, des lieux de production plus proches des consommateurs.
On parle d'une réindustrialisation plus légère, disons.
Oui,
c'est ça.
Oui, c'est ça. On parle beaucoup de choses qui ont toujours été partie de la ville. Comme déjà dit, réparer les matériaux de construction, par exemple. Ce n'est pas à la campagne qu'il faut avoir les matériaux de construction, c'est dans la ville. Il faut les stocker, il faut les préparer. Et ici, dans le bassin Vergotte et le quartier Massui, ils sont deux outils essentiels pour la ville. En fait, on a un aspect de port, le bassin Vergotte avec les matériaux de construction qui viennent heureusement de temps en temps via le bateau.
C'est ce que Lise un peu nous a expliqué tout à l'heure.
Et le quartier Massui, quand même très particulier, c'est pas un site industriel, c'est un quartier. Mais c'est un mélange total de la ville productive et la ville résidentielle.
Donc il est possible, selon...
Ce sont les fournisseurs de la ville.
Ouais, donc si il est possible, selon vous, de redévelopper cette activité économique.
Il faut surtout
et c'est désirable, les garder.
Il faut les préserver parce qu'ils sont essentiels.
Mais dans le cas de Bruxelles, il s'agit aussi de les redévelopper. Non, simplement les conserver.
Comment garder ce qu'on a encore?
Je pense que l'essentiel, c'est pas d'essayer de... Oui,
il y a une intervention de la part de quelqu'un du public.
Votre prénom? Allez-y, aide-moi un peu.
Je vais faire son école des fans.
Je suis Charlotte Coquen. J'habite dans le quartier, je travaille dans le quartier. Je travaille pour le plan Canal. Et donc le plan Canal, en fait, c'est une approche que la région a prise en 2010, à mon avis. Enfin, ils ont commencé en 2012. Ils ont fait un grand master plan, entre autres, avec Architecture Workroom Brussels et chez Metof, pour justement développer un plan pour le canal, pour la zone du canal, parce que c'était vraiment une zone très, très difficile. Enfin, c'était vraiment une barrière à travers la région, et donc de faire un master plan pour toute la zone. Et donc, est sorti le plan canal, qui a comme vision principale de garder les activités industrielles dans la zone. Et donc justement, donc le bassin Vergotte et donc les rives du bassin Vergotte dont fait partie le PAT est fait pour garder cette activité industrielle, justement pour même densifier cette activité industrielle. On est au cœur de la ville de Bruxelles, mais la région a clairement décidé de garder ses activités industrielles là. Et pourquoi? Parce que la ville a besoin de cette industrie. Il y a trois centrales à béton le long du bassin Vergotte, justement parce que Bruxelles a besoin du béton, et donc ils ont besoin d'avoir des camions qui sortent de là pour aller donner du béton dans les nouveaux bâtiments tout autour. Donc c'est vraiment un plan très, très... qui est très différent que beaucoup d'autres villes, comme Roland l'a déjà dit. Beaucoup d'autres villes chassent en fait les industries pour créer des logements très chers. Et là, le but, c'est vraiment de garder cette industrie. Et en fait, ce qui fait aussi que les industries, ça crée du travail. Et donc, pour les gens du quartier qui pourraient aller travailler là.
Mais je veux juste souligner cet exemple Interbéton. Est très inspirant et très important parce que
Interbéton,
c'est un des trois.
C'est une entreprise.
Entreprise qui prépare les bétons pour les chantiers en ville, et eux, ils ont récemment, il y a 2-3 ans, ils ont commencé à lancer un processus d'un concours architectural urbanistique pour s'intégrer mieux dans la ville. Et on a eu des échanges avec le directeur et voilà, ils se demandent pourquoi vous investissez, parce qu'ils investissent 1 million d'euros et le seul retour pour ces 1 million d'euros, c'est de pouvoir rester. Alors ça montre quand même que c'est important. Si il dit, si on part, on ferme, on n'existe plus à Bruxelles. Parce qu'il faut être un maximum, minimum 90 minutes de chantier.
Une intervention de Lieven. Alors Lieven, je t'invite à venir vraiment au micro, désolé. C'est la...
Si on veut participation, il faut quelqu'un qui fait le tour, quoi.
Ouais. Enfin, c'est la personne qui fait le tour, du coup. Il faut être mobile.
Oui, oui, ok. Mais moi, je crois qu'il y a une raison politique et qui est oubliée d'être mentionnée ici. Dans une ville normale, ouais, on dirait... imaginons qu'il y a un parc à conteneurs sur les quais de l'Escaut à Anvers, devant l'hôtel de ville. Impossible. Ouais, on est d'accord. Donc, à Bruxelles... Enfin, je ne dis pas que... le bassin Vergote, c'est la quai en face de l'hôtel de ville, c'est pas ça, mais en fait, c'est très très proche, dans le sens que Tour et Taxi, c'est quand même un palais, et c'est un des plus beaux bâtiments de Bruxelles, hein. Qui avait, mais qui ne l'a plus, donc qui est devenu un monument. C'est-à-dire, avec la démographie, va... Donc, moi, je suis contre. Mais je sais que... Mais là, il faut dire la vérité. La vérité est qu'on ne peut pas reporter le port. On ne peut pas, parce que là, on est en Flandre. Ça ne va pas aller. Tu vois ? Ça ne va pas aller. Bruxelles est coincée dans soi-même. C'est ça le problème. Parce que le Vergote, à mon avis, enfin, Jens Arts avait, chez moi, je suis très fier, il y a 20 ans, il a fait une thèse pour aménager tout le long du bassin Vergote, avec la pression démographique qu'on a mentionnée, avec les nouvelles villes et le charme de l'eau, le charme magique qu'il faut quand même avouer de l'eau, et pour sauver tout ce qui est autour, donc, et pour faire le lien entre... Tour et Taxi et cette friche qu'on a dit zone triste, tu vois, on va jamais, mais jamais résoudre ce problème. Donc il y a un crime de herbicide qui s'appelle Quartier Nord, hein, qu'il faut toujours voir comme une zone sinistrée et qui va l'être jusqu'au bout des temps, je crois, ou je crains. Sinon, c'est nous qui vont sauver, les artistes et les architectes, hein, en faisant de l'aura. Et maintenant, on est tous deux voisins, parce que vous payez aussi à ces messieurs. Enfin, donc Saint-Luc paye beaucoup. Ah oui, ok. Mais Saint-Luc, non, Saint-Luc paye beaucoup de gens.
C'est tristement défaitiste. Il se passe des choses dans ce quartier.
Non, oui, non.
Je
veux monter un peu la température. Je suis, c'est ma vocation dans ma vie.
Il fait chaud aussi.
Mais oui. Mais si le bassin Vergote devenait quelque chose de, à la fois parc, accès à l'eau, parce que, par exemple, le Hakenkaai prouve déjà, avec, c'est mentionné, Bruxelles-les-Bains, prouve déjà que, par exemple, pour moi, le Hakenkaai devrait être le lieu du marché de Noël qui est maintenant en train de suffoquer la ville. Donc, si tu mets tout le marché, tu vois, etc. Donc là, il y a toute une ville qui nous attend et qui est rendue impossible par la situation politique de Bruxelles. Et c'est ça la vérité.
Oui, mais je pense que ça, c'est...
Merci. Alors, peut-être une réaction de Lise Naclé sur cette question. Roland, je pense que Lise voulait réagir, peut-être.
Non, je suis un peu amusée parce que c'est aussi la référence qu'il y avait dans l'autre débat où on soulignait le fait qu'on voulait tout mettre dans un parc, en faire une activité sociale, en faire une activité éducative, en faire une activité écologique, en faire une activité... Et on a un peu le même phénomène ici avec justement ce bord de canal. Et vous dites, monsieur Lieven, que justement, il faudrait pouvoir déplacer au bassin Vergote des activités. Cet endroit est le dernier bastion d'activité économique pure, si on regarde justement en termes d'affectation au Pras, qui ne sont toujours que des aplats de couleurs, qui fonctionnent encore tant bien de mal. Vous donner un exemple, et sans entrer dans une polémique politique parce que c'est un peu le cas. Il y a un projet, comme tout le monde le sait, de refaire l'avenue du port maintenant. L'avenue du port en ce qu'on appelle un boulevard urbain. C'est pas exactement ce que ça veut dire, parce que pour moi un boulevard c'est déjà urbain, mais manifestement ça doit être plus urbain. Et du coup, dans le projet de réaménagement, on propose notamment le fait d'y mettre une piste cyclable.
Rapprochez-vous sinon.
Une piste cyclable pour rouler à vélo. Une piste cyclable de deux côtés. Un côté tour et taxi, qui serait une piste cyclable unidirectionnelle. Une autre piste cyclable côté canal, donc côté Pras Entreprise, qui serait bidirectionnelle. C'est, encore une fois, si on parle en termes d'aplat de couleurs et de planification, c'est tout à fait louable, c'est beau, on a des gros problèmes de mobilité à Bruxelles, on aimerait pouvoir avoir amélioré la mobilité et permettre justement une meilleure perméabilité et surtout un meilleur confort des cyclistes, tout à fait compréhensible. N'empêche que par cette volonté de venir mettre devant une zone d'activité économique une piste cyclable bidirectionnelle, c'est d'ailleurs un RER vélo, c'est comme ça qu'on l'appelle, pour que les gens ne s'arrêtent pas, fassent 30 km/h à grande vitesse, on bloque totalement l'activité des entreprises. Parce qu'il y a 9 sorties et rentrées de camions là-dessus, on l'a dit, le béton c'est essentiel dans la ville. On ne construit pas sur les fameuses émues sans avoir du béton. C'est les zones d'économie en milieu urbain qui sont des anciennes zones d'activité économique sur lesquelles on permet maintenant de construire du logement. Donc le nom est un petit peu amusant.
Pour terminer, on
constate donc maintenant qu'on a cette même volonté de densification de la ville qui se fait sur des zones dont normalement on dit et on énonce, et Mme Cocken l'a dit, sur le fait que l'ambition du gouvernement était de respecter et d'asseoir cette zone économique. Pour autant, on vient y mettre une activité qui va clairement entraver et voir faire péricliter cette activité. Alors, je ne me prononce pas sur le bien, le mal, même si j'ai mon opinion personnelle. C'est juste pour soulever qu'encore une fois, on a du mal à faire des choix et qu'à force de toujours vouloir mettre partout, on risque d'y perdre pas mal.
Mais donc, toutes les villes que je peux imaginer, Gand, Anvers, Paris, c'est impensable qu'il y a une zone tellement grande, gigantesque, industrielle, tellement proche, mais c'est gigantesque.
À Paris, la fin des quais parisiens de la Seine sont remplis de fournisseurs de béton. Pardon, j'ai pas de micro.
Monsieur Liven, c'est la ville qui a avancé vers ces activités, c'est pas ces activités qui se sont rapprochées de la ville. On a toujours ce fantasme de la ville médiévale, on dit oh c'est génial, les petits artisans qui habitaient au-dessus de leur maison, et maintenant on imagine que pour faire, vous sembliez reprocher vous-même au quartier nord sa monofonctionnalité, son côté tristement, et en fait à vous entendre, on pourrait croire que justement une activité économique de cette ampleur n'a pas sa place. Mais justement, une ville équilibrée est une ville qui permet aux activités de se côtoyer. Le problème, c'est qu'il y a des choix à faire et que...
Alors, pour résumer, Roland, je vais quand même demander Vidal.
À Liven de Cotter une précision, parce que je pense qu'il n'y a personne qui... Je pense que l'idée de garder de l'espace... productif ou des grands espaces industriels, en tant que grand espace industriel, ça offre aussi l'opportunité d'accueillir autre chose, par exemple des grands événements métropolitains. Et vous parlez de Bruxelles-les-Bains. Bruxelles-les-Bains, c'est Québéco. Le Québéco, c'est pas Bassin Vergotte. Hein. C'est comme... Vous avez dit que c'est très grand.
Oui, non.
Il faut quand même. Est-ce qu'il faut vraiment faire le choix entre la ville industrielle et la ville résidentielle, en sachant qu'il y a tellement d'espaces publics et
la seule chose que je veux dire, que évidemment que le site Rouen pourrait être un espace productif, on a fait le choix d'en faire un espace culturel, c'est peut-être un mauvais choix. Par exemple, pour le site Rouen, je suis beaucoup moins convaincu que c'est un bon choix. Mais enfin, on peut en discuter.
Je crois que ça, c'est un constat que beaucoup de gens partagent sur ce trait. Mais c'est pas le sujet de ce débat.
C'est-à-dire, si on pense qu'on peut discuter de cette petite... Que moi, pour me préparer sur ce débat, j'ai fait le truc. Donc, parce que j'habite... L'aller-retour de cette zone. On ne peut pas sauver cette zone. Donc, oublions, le parc Maximilien n'existe pas. Ce n'est pas un parc. Ça ne va jamais être un parc. C'est impossible.
On a vu que la question écologique avait du mal à être traitée, déjà.
Il faut être clair là-dessus. C'est une infrastructure un peu verte. Pas trop verte quand même, hein. C'est pas très vert. C'est une infrastructure, beaucoup de béton, beaucoup d'espace rempli. Donc c'est vraiment, c'est tout à fait, oui, c'est un désert de béton, beaucoup plus qu'un parc. Il faut le dire. Donc j'ai fait des photos, si vous ne me croyez pas, on peut les projeter. Donc c'est très clair, un désert de béton. C'est une zone triste, comme Lise l'a dit. C'est une zone très triste, en fait. Et donc, si on veut sauver cette zone, il faut le Citroën, il faut Bassin Vergote, il faut Tour & Taxi, il faut le quartier Nord. Il faut la chaussée d'Anvers qui peut devenir une rue vivante, énorme. Il faut juste quelqu'un qui s'y met.
Livin de Coster, oui. une réaction de la part d'une personne du public qui habite en fait le quartier.
Non, mais j'habite le quartier, moi.
Ah, tu habites aussi le quartier, donc tu as les deux casquettes.
Non, dimanche que tu habites.
On a fait le tour là. Hein. Moi, j'habite le coin de Avenue de la Reine et rue Boîtier. Donc, je passe ici, c'est mon quartier. Je peux pas aller en ville sans passer ce quartier. Je travaille au VTC maintenant. Je donne des cours là-bas. Donc, mes restaurants, mes shops, tout est... Enfin, je suis vraiment du quartier, mais ce quartier, donc je le fréquente tout le temps. Donc,
mais
je
moi
me sens habitant.
J'ai l'impression d'assister à pièces de théâtre. Si au lieu de qu'on dit, tiens, qu'est-ce que vous avez besoin, vous, les habitants, comment vous voyez l'avenir de ce quartier, Parc Maximilien? C'est un très beau parc, qu'on est très content. Heureusement qu'il existe, parce que c'est vrai que c'est une beauté des quartiers. Cet quartier est très riche. Au niveau culturel, il a une très belle histoire aussi. Alors, je pense qu'on est ici pour le dire, tiens, qu'est-ce qu'on fait dans les quartiers nord? Parce qu'ici, il faut se dire aussi qu'on a devoir des citoyens de construire un meilleur avenir pour nous tous. C'est super important.
Merci. Non, mais il faut le dire aussi. Il faut le dire aussi.
Juste pour rebondir ce qu'a dit madame, seconde, donc, elle a soulevé quelque chose d'important, madame, c'est que c'est un quartier, effectivement, quand on regarde les statistiques, j'aime pas ce mot, mais il y a énormément d'activités culturelles, il y a énormément,
réalité,
un gros secteur associatif et énormément d'associations d'éducation permanente, d'instituts de formation. Et ça, justement, on parle d'activités productives, mais il n'y a pas de production et il n'y a pas de création de valeur, qu'elle soit sociétale ou monétaire, sans justement de la formation, des gens formés et des gens qui savent s'intégrer justement dans ce tissu économique. Et c'est peut-être justement là-dessus qu'on doit axer l'aspect productif aussi, c'est produire des gens qui sont capables de s'insérer dans un... Et ça passe par le secteur culturel, le secteur associatif, le secteur de l'enseignement. Qui est déjà
c'est intéressant.
Présent.
Roland Dudal, c'est pas ce que vous aviez l'air de dire tout à l'heure. Vous axiez beaucoup plus sur les activités vraiment productives. On compte ça aussi. Dans quelle mesure c'est vraiment important tout le tissu associatif? Est-ce que ça crée de l'emploi? Est-ce que ça pèse dans le débat sur l'économie du quartier?
Ben, je pense oui. Je pense que ce qui est essentiel, c'est de constater que. Oui, une très grande partie du quartier nord, le quartier administratif et aussi les nouveaux logements sociaux qui sont mis à côté avec des espaces publics complètement inutilisés, c'est là où il faut réfléchir à quelle ville on veut produire. Et c'est avec tout ça, c'est le monde associatif est lié aux les chaînes courtes entre les gens. C'est là où peut naître des nouvelles entreprises. C'est là où quelqu'un qui arrive à Bruxelles peut peut-être trouver son premier boulot, après devenir un entrepreneur lui-même, trouver un espace, travailler dans n'importe quel business et finalement coproduire une société urbaine comme c'est fait dans les quartiers, par exemple, Massouy. Ça marche assez bien là-bas, même si ça sort un peu des statistiques. Mais si on fait des promenades dans le quartier Massouy, c'est tout à fait un autre débat que le bassin Vergotte, où je comprends ta position vis-à-vis de la politique, ce qui est vrai, mais les industriels et les gens qui travaillent, qui bossent, qui habitent à côté de leur entreprise dans ces quartiers, n'ont rien à faire avec cette truc Bruxelles-Flandre. Intrabreton n'a rien à faire, il veut être là. Et je pense que là, il y a assez d'espace possible dans tous ces espaces publics inutilisés pour faire des espaces capables pour beaucoup de choses en même temps. Y inclut le marché Noël, y inclut Bruxelles-les-Bains, mais bien sûr avec des concepts d'échange, avec un dialogue avec ces gens qui travaillent, qui bossent, avec le monde associatif et culturel. Alors le bâtiment Citroën, vous pensez que ce n'est pas le débat, mais c'est quand même le débat. Le fait que le garage sort, c'est peut-être logique dans la tête de Citroën, qu'on veut développer là un pôle urbain d'haute qualité, c'est un endroit crucial pour la ville, mais ça peut devenir une machine pour beaucoup plus que des visiteurs, des touristes du musée. Et là, ça peut être une destination culturelle, ainsi qu'un lieu de travail, ainsi qu'un lieu de débat, un lieu de démocratie même.
Alors, il y a une la démocratie. Mais de manière générale, on est d'accord qu'il y a eu... Il y a eu une désindustrialisation, tu vois, j'arrive à le prononcer d'un coup. Juste une question de ma part, et après je laisse le micro à une personne du public. Il y a eu une désindustrialisation, et on sent quand même une sorte de, sinon de conflit, en tout cas de cohabitation difficile, entre d'un côté le logement, et d'un autre côté les activités proprement économiques. Et ce que semblait dire Lieven de Koster, c'est que finalement, si Bruxelles veut garder ses activités économiques au centre de Bruxelles, c'est tout simplement parce que Bruxelles ne parvient pas à mettre toutes ses industries à l'extérieur de Bruxelles. Est-ce qu'il y a une réelle volonté, c'est ça ma question, est-ce qu'il y a une réelle volonté de garder ses industries au centre de Bruxelles? Et surtout, comment on fait, de quels instruments on dispose pour pouvoir soutenir ces activités économiques à Bruxelles? Est-ce que le PAD, par exemple, est un instrument pour faire ça? Voilà, c'est ma question. Qui est derrière moi.
D'accord. Donc, vous avez attiré mon attention en parlant de développement industriel de grande envergure et le développement de parcs de logements, c'est-à-dire résidentiels. Et qu'est-ce qui me préoccupe à ce niveau? Je voudrais savoir s'il n'y a pas d'impact écologique pour les habitants avec un développement industriel de grande envergure, tel que la bétonnière qui est à côté des logements sur la rue.
Ouais, bonne question. Mais je dirais, espérons au contraire. Parce qu'en fait, toutes les industries polluantes, par de la législation environnementale et tout ça, sont déjà hors la ville. Ce qui est important maintenant, c'est qu'on voit dans tous les documents politiques, des accords mondiaux, qu'il faut une autre économie, une économie qui non polluante, une économie qui est plus durable, et souvent dit, ce ne soit pas une économie linéaire où on produit quelque chose en Asie et on prend un bateau au mazout pour emporter les produits ici, pour avoir des camions pour amener les produits dans les magasins. On va vers une économie circulaire. Une économie circulaire, c'est une économie... Pardon ?
Lieven, tu n'as pas de micro.
Bien sûr que si, monsieur.
Bien sûr. Ben, il devrait.
Mais il le fait.
Il devrait. Ils sont en train de... Je vais pas. Il devrait être obligé d'une autre manière, c'est de travailler circulaire, ça veut dire travailler avec des circuits beaucoup plus courts. C'est d'essayer de produire les matériaux, les produits là où sont les consommateurs. C'est aussi de voir s'il y a des flux de matériaux, par exemple des déchets de construction, peuvent être réutiliser dans des économies de
recyclage. Concrètement, quelles synergies sont possibles?
Beaucoup de synergies, parce qu'avec Intrabeton, par exemple, restons là-dessus, le sable vient ou le sable et tous les matériaux, ça vient en bateau. Et il renvoie le bateau vide. Ça, c'est déjà bizarre. Hein? Ça, c'est déjà pas circulaire, ouais, pas 100% circulaire, t'as qu'un demi-cercle. Hein? Ça arrive, mais ça part vide. Ils ont tous des déchets. Tous les entreprises de matériaux ont des déchets, mais ils font pas en coalition. Est-ce qu'on peut identifier ce qu'on a en tant que déchets de construction, ce qu'on peut trier? Par exemple, Stevens joue un rôle pour la ville en triant les métaux. Et officiellement, il y a peut-être très peu qui sort Stevens, ou ça part peut-être en bateau. Et c'est aussi dit qu'il y a travail, il travaille pas beaucoup de gens là-bas, mais si tu regardes sur place, il y a beaucoup de gens qui déposent leur truc métal, ils essayent d'avoir un peu d'argent pour des pièces de métal. Alors ce sont des écologies, un métabolisme urbain aussi. Et alors je pense que ce qui est essentiel pour conclure, une économie durable est une économie qui est d'office urbaine. Alors, il faut une relation entre l'économie de demain, l'économie qu'on a besoin, plus durable, moins polluant et plus inclusif. Ce sera une économie urbaine. Et il faut, avec le pouvoir public, il faut établir des critères, bien sûr, d'accueillir et de garder les entreprises qui font ce shift vers une économie plus durable. Et ça, c'est dans le cadre d'un PAT ou n'importe quelle direction que donnent les pouvoirs publics en développement urbain. Il faut intégrer le dialogue là-dessus et demander au port de changer ses critères et pas seulement accepter des entreprises qui sont à l'eau, mais qui n'utilisent un tout petit peu l'eau. Il faut intégrer des entreprises qui ont un emploi local, qui produisent local, et qui utilisent les flux des matériaux qui entrent et sortent la ville. Et ça va devenir un atout pour le quartier et pas un problème pour les habitants.
Lise Naclet,
mon inquiétude réside dans les conséquences sanitaires du développement industriel à côté des logements.
Ouais, moi, si je peux répondre à madame. C'est une préoccupation que vous avez tout à fait raison d'avoir. Et pour vous rassurer justement un petit peu, maintenant, les réglementations, et en particulier à Bruxelles, sont extrêmement strictes. Il faut savoir que ce qui pollue plus à Bruxelles et ce qui est le plus contraignant pour les habitants, c'est les particules fines. Une centrale à béton ne produit pas de particules fines, elle produit des particules beaucoup plus épaisses. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de ce genre d'aspect, mais... Pour répondre à votre question, justement, quand on développe du logement maintenant, il y a toute une série d'outils qui sont possibles, qu'il est possible de mettre en œuvre, en particulier dans les émus, puisqu'il n'y avait pas de logement. On peut partir, si pas d'une feuille blanche, parce qu'il y a encore des activités qui sont déjà et qu'il faut pouvoir concilier, mais il y a toute une manière d'organiser la ville qui peut éviter, justement, les contraintes que vous craignez. Par exemple, et moi ça me sidère qu'on n'ait pas ce genre d'outils à Bruxelles, et là, en l'occurrence aux aménageurs, etc. Comment ça se fait que des processus aussi simples que placer entre une zone de tas de sable et des habitations, comme on en a de ce côté-ci, mais aussi beaucoup de l'autre côté, du côté Anderlecht, certains types de buissons, certains types d'arbres qui coupent la vue, qui empêchent les mouvements des vents et les mouvements, il n'y a rien là-dessus. On n'a pas un cahier des charges à Bruxelles, on crée des émus, on crée des zones, on fait encore une fois des aplats de couleurs sur des plans, et puis on a l'impression que par magie, ça va se développer. On demande à des promoteurs immobiliers qui sont des promoteurs de résidentiels de développer du logement sans leur donner le moindre outil pour justement encadrer l'espace qu'ils vont créer en termes d'activité économique. Et tout ça, c'est possible, et tout ça, ça se fait, et s'il y a bien une préoccupation qu'on devrait avoir maintenant, au-delà même de la question des grands plans, etc., c'est justement ces outils pratico-pratiques qui répondent avec préoccupation de savoir comment est-ce qu'on empêche du sable de voler d'un endroit à un autre, comment est-ce qu'on réduit le bruit de certaines activités. Et voilà, au-delà de la pollution, il y a tout cet aspect sonore qui est souvent très dérangeant pour les habitants. Eh bien, Interbéton, puisqu'on les a cités maintenant, ont investi pas mal dans des camions qui ne font plus tut, tut, tut en reculant, mais qui font des bruits beaucoup plus ténus. C'est des petits enjeux comme ça, mais encore une fois, il y a un contexte beaucoup plus large qui fait que, voilà, pour investir, il faut de l'argent, il faut être sûr de pouvoir rester au-delà de 4 ans. Voilà.
Mais il y a deux questions à la suite de ce que disait madame. C'est est-ce que quel type exactement d'activité on souhaite avoir ? Ça, on ne l'a pas vraiment précisé. Quand on parle d'industrie, industrie toujours, ça fait un peu peur. On imagine des cheminées qui fument. Donc, quel type d'activité, première chose ? Et puis, comme tu disais, tu parlais d'instruments. Quels instruments on a pour les attirer ?
Il faut savoir, au-delà de l'aspect purement territorial, à Bruxelles et en Belgique, il y a un aspect fondamentalement beaucoup plus large qu'on ne va pas aborder ici, quel aspect fiscal, quel aspect de l'emploi, quel aspect, encore une fois. Et il faut aussi réfléchir en se mettant, entre guillemets, dans la peau d'une entreprise. Le foncier à Bruxelles est rare. Les tensions sont grandes. Les délais d'obtention de permis sont immenses. Et le foncier coûte cher. Oui, bon, ça comme tout dans toute la Belgique, mais voilà, Bruxelles a en plus des caractéristiques qui sont que c'est pas facile de s'installer ici, ça coûte cher. Donc pourquoi est-ce qu'une entreprise qui, entre guillemets, ne fait que stocker des taxables viendrait s'installer ici si ça lui coûte plus cher d'aller à l'extérieur de la région ? Si elle le fait, c'est qu'elle a bonne raison. Il faut pas avoir la naïveté.
Alors quelles sont ces bonnes raisons ? On a 5 minutes pour terminer ce débat.
Justement, le fait qu'il y a toute une ville à côté, qu'il y a des tas de sable, il y a une ville qui se construit et qui a besoin du sable, qui a besoin des granulats juste à côté. Il y a des grossistes au quartier Mazuy qui livrent des biens au centre-ville parce que le centre-ville a besoin des bières, des tas, enfin de tout pour justement faire vivre le centre-ville. Et donc l'un va avec l'autre. Et donc si on déplace tous les grossistes du quartier Mazuy vers la limite de la région bruxelloise ou en Flandre, on va encore avoir plus d'embouteillages, des camions qui vont aller de l'extérieur au centre-ville pour amener les biens. Donc, vaut mieux les garder au centre-ville et justement faire cet échange. Et comme les énergies changent et tout ça, les camionnettes, ça va, dans quelques années, ça va être des camionnettes électriques. Enfin, voilà, donc tout ça, ça va changer aussi. Donc, il y aura moins de nuisances écologiques dans quelques années. Les entreprises qui veulent rester là vont s'intégrer au centre-ville, justement pour avoir moins de nuisances, comme Interbeton, mais plein d'autres entreprises aussi, pas que eux.
Ouais, et la question, la question sur quel type d'économie il faut. C'est très, très, très difficile et c'est même une fausse question. Parce que, bien sûr, il faut des critères pour être sûr que les entreprises dans la ville s'adaptent à la ville et utilisent la ville le maximum possible. Mais il faut regarder autour de nous. Il y a déjà tellement d'entrepreneurs, forcément des industriels, de toutes sortes, des centres de formation, des centres de réparation, des 3D printing, n'importe quelle niche ou business, des gens qui veulent être dans la ville. Et après, dans les outils qui ont un plan d'aménagement directif ou législation urbanistique, je ne sais pas, il ne faut pas tout mélanger pour ça. Il ne faut pas demander aux gens d'habiter dans une usine où les enfants jouent sur un cours où il y a des camions qui peuvent les tuer facilement dans un moment. Voilà. Mais il faut juste bien négocier et redistribuer l'usage d'espace public entre toutes les fonctions qui sont normales dans la ville, y inclut les activités productives, et garantir que c'est bien organisé. On peut avoir une rue qui est plus productive avec des camions, une autre rue qui est en plein de jeux avec des cycles, avec des bicyclettes.
Moi, j'ai un peu l'impression, c'est aussi ce qui arrive souvent avec les débats, on a une déclaration de bonnes intentions, évidemment, on a tous des bonnes intentions, mais après, on se pose la question de comment on le fait concrètement. Et c'est ça, peut-être, on va terminer ce débat, et Lise Naclé. La troisième partie, évidemment, on va tout résoudre.
Tout est dans leurs mains.
Et peut-être Lise Naclé pour clôturer un peu ce débat. Les outils qu'on a aujourd'hui, et quelle est la position de Bessy pour arriver à maintenir ces entreprises et peut-être en attirer d'autres, mais déjà peut-être en maintenir. Quels sont les outils concrets qu'on a pour essayer de bien comprendre ?
Je crois que l'outil maintenant, et ça va paraître un peu neuneux ce que je veux dire, mais c'est le dialogue. Il y a encore une fois une grande méconnaissance souvent de l'activité économique, une grande défiance aussi vis-à-vis de l'activité économique. Et puis, et le premier débat l'a un peu illustré, ce blabla un peu technocrate, un peu d'urbaniste, hein, que je rejoins tout à fait, mais qui est un peu décorrélé parfois de la réalité. Et on le dit, il y a ces idées comme ça, un peu idéales, qu'on a sur la ville productive, la ville mixte, etc. Et puis dès qu'on dit, ok, mais comment on fait ? En fait, il n'y a plus personne. Et pourtant, je crois que les entreprises, elles ont une idée, elles connaissent leur terrain, elles savent comment ça fonctionne. Et il y a peu de gens qui se rendent compte.
Elles savent.
Il y a peu de gens, quand on dit on va faire des émus, ah ben oui, pas de problème, on fait venir des camions avec des palettes à 4 heures du matin. Mais non, ça marche pas si bien que ça. Et tant qu'on mettra pas, entre guillemets, des aménageurs au milieu d'une centrale à béton et des gens qui travaillent dans une centrale à béton au milieu d'une résidence, en leur disant, voilà, maintenant, c'est quoi vos solutions et où est-ce que vous êtes prêts à investir pour que ça fasse moins de bruit, on n'y arrivera pas parce qu'on va continuer ce dialogue de sourds. Roland a cité justement l'exemple d'Interbéton. Ils ont été ultra proactifs, ils ont proposé un petit concours qu'ils ont fait avec des étudiants. Il y a une vraie ouverture sur la ville, et d'abord parce qu'ils ont envie de rester, c'est un souci... Un souci pour leur activité. Mais je veux dire, ce modèle-là, on peut le répliquer, mais ça va demander aussi de la part des aménageurs d'aller un peu chercher certains entrepreneurs ou certaines entreprises qui ne sont pas du tout perméables à ça. Enfin, on a essayé, on a fait un petit exercice d'emmener certaines, de proposer à des étudiants de travailler justement dans certaines entreprises, de venir leur faire une espèce de petit diagnostic comme ça. Et c'est vrai qu'il y en a, quand on leur propose ça, ils regardent avec des yeux ronds, mais à quoi ça sert de faire venir des étudiants pour parler de diagnostic qu'ils ne comprennent pas ? Et puis quand on leur explique, avec un peu de pédagogie, voilà, votre quartier va changer, vous allez peut-être devoir trouver de nouvelles activités, vous réimplanter, ça va vous aider, etc. Là, ça commence à percoler et ça se fait.
Donc cette discussion n'est peut-être pas complètement inutile qu'on a actuellement. On pourrait d'ailleurs encore une fois la prolonger.
Sinon, on ne serait pas là.
On peut la prolonger. On va terminer ce deuxième débat et on va glisser tout doucement vers le troisième. Donc la dernière heure, on peut retrouver l'émission dans le plus simple appareil sur Facebook, sur le Facebook de l'émission, Urban Écologie, je cite également Perspective avec qui l'événement est organisé,
Radio Panique.
Et Radio Panique évidemment qui diffusera l'émission sur ses ondes. Merci à Lise Naclé et Roland Doudal pour votre présence et votre patience. Merci à ceux qui ont participé, désolé à ceux qui peut-être avaient des questions, mais qui, dans l'enthousiasme général, n'ont pas pu participer, il faut se faire une place, vous le savez. Certains, voilà. Merci à tous, et rendez-vous dans 2 minutes.
Je suis venu dans le plus simple appareil.
Dans mon potager, dans le plus simple appareil.
J'adore manger dans mon plus simple appareil.
Aimer mon plus simple appareil.
Je suis venu dans le plus simple appareil.
Et moi la tomate dans le plus simple appareil.